Et là, on voit un des grands enjeux en fait de toute la pollinisation. J'en ai un peu parlé avec les apiculteurs et leurs camions, mais c'est que là, on arrive. On arrive en fait en mettant les cocons, on arrive quasiment à rendre ces insectes liquides, facilement déplaçables, qu'on peut en fait installer dans n'importe quelle culture. Et encore aujourd'hui, là, on pourrait le faire en une minute sur internet, on pourrait en acheter des cocons qui sont produits je sais pas où. Et en fait, c'est vraiment l'idée qu'on va extraire certains insectes de leur milieu et de leurs conditions de vie pour les rapporter dans la culture, pour les mettre au travail. Et donc l'idée de vraiment toujours arriver à trouver la forme insecte qui va être facilement déplaçable pour approvisionner les agriculteurs qui en ont besoin. Et maintenant, ces méga shields, soit elles sont produites directement par les producteurs de luzerne, soit par des entreprises spécialisées. Dans les années 70, il y a des chercheurs Tazei qui avait commencé un peu à travailler sur certaines souches, mais il a arrêté. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et oui, aujourd'hui, en 2016, en France, il y a une start-up qui s'est montée, Osmia, donc, comme le nom des abeilles, les Osmi, là, juste avant, que j'ai montré, et qui a importé des souches de méga-chill canadiennes. Donc des souches sélectionnées pour l'élevage pour essayer de développer ces insectes en France, sachant qu'ils sont surtout spécialisés dans l'osmie qu'ils louent aux producteurs de pommes essentiellement. Le deuxième insecte et le dernier dont je voudrais parler, c'est peut-être un des plus tristes parce que c'est une sorte de un exemple paradigmatique d'une industrialisation du vivant, c'est celui du bourdon. Je suis à l'envers. Ah oui, pardon. Ça, c'est ce qu'on a vu, en fait, les méga-chiles, on les installe là-dedans. Là, on voit que c'est du trèfle au sol. L'hiver, on les stocke là-dedans. Donc, les cocons, on les met en chambre froide. Et au-delà de la luzerne, c'est aussi des abeilles qu'on introduit dans les cultures de bleuets au Québec, au lac Saint-Jean. On utilise plus souvent l'abeille domestique, mais j'ai pensé à... Voilà, c'était... Voilà, pour montrer que c'est pas seulement la luzerne, mais qu'il y a aussi d'autres cultures qui utilisent la méga-chill. Donc ça, c'est le bourdon sur une fleur de tomate. Avant de parler de la tomate, le bourdon. Le bourdon, il y a une histoire assez ancienne en pollinisation, déjà parce qu'il est au centre de pas mal d'études chez Darwin. Bon, c'est un peu ce qui l'a rendu connu. Darwin en a beaucoup parlé, donc les gens ils parlent beaucoup du bourdon. C'est assez intéressant, à la fin du 19e siècle, il y a tout un périple pour essayer d'importer le bourdon en Nouvelle-Zélande, donc territoire nouvellement un peu colonisé, parce que le problème c'est que sans le bourdon ils n'arrivent pas à produire le trèfle, et pour le bétail ils ont besoin de trèfle, donc en fait il y a plein de pérégrinations pour essayer d'exporter des rennes bourdons en Nouvelle-Zélande. Bon, ils vont y arriver, mais c'est assez intéressant de penser à la conquête d'un territoire aussi à travers certains insectes pollinisateurs, surtout dans les années, encore une fois, 60. On a déjà la mise en place de dispositifs de capture. Autrement dit, on met des boîtes dans lesquelles les bourdons seraient susceptibles de venir nicher. Quand la reine bourdon, parce que les bourdons vivent... j'ai peut-être pas précisé ça. Les bourdons vivent en colonie, donc il y a une reine. Un peu comme les abeilles, il y a une reine et plein d'ouvrières. Toutes les autres abeilles qu'on a vues juste avant, les méga-chiles, les osmi, elles vivent seules. Il n'y a pas de reine, elles font leur existence solo. Et pourquoi je disais ça? Oui, on place des boîtes pour essayer que les rennes bourdons viennent se nicher dans les boîtes, construire leur colonie, et on déplacera ces boîtes dans les cultures agricoles. Aux années 60, la Commission internationale de botanique apicole, donc membre de l'Union internationale des sciences biologiques, crée une équipe pollinisation et recherche sur le bourdon. Pas mal de Français qui y participent, dont Jean Louveau, qui fait partie qui est à l'INRA. Chef du département de recherche apicole à l'INRA. Donc voilà, il y a des tentatives de domestication, mais c'est en 85 que tout va basculer, quand Peter Frank Roseller, donc qui est un Belge qui travaille dans un institut de zoologie d'Allemagne, en fait lui il se rend compte que si on plonge une reine bourdon pendant une demi-heure dans du dioxyde de carbone, en fait on va modifier son hivernage, donc le moment où normalement la reine bourdon hiberne, le moment où elle se met en pause pendant plusieurs mois, là elles vont pas tarder à commencer à sortir. On les plonge pendant une demi-heure dans du dioxyde de carbone et la reine a l'impression d'avoir terminé son hiver. Et donc autrement dit, si on trempe cette reine en plein mois de décembre, en décembre, la reine va avoir l'impression de sortir de son hiver et donc va se mettre à créer sa colonie, à pondre, etc. etc. Ceci, ça va vraiment intéresser pas mal de monde parce que la tomate, le bourdon est le seul insecte qui peut polliniser la fleur de tomate parce que quand il se met dans cette position-là pour aller chercher, je ne sais pas si c'est du pollen ou du nectar, il fait vibrer la fleur à une certaine fréquence et ça fait tomber le pollen sur les organes femelles, ça pollinise. Et à ce moment-là, en fait, on commence à faire la production de tomates sous serre en hiver et la tomate fleurit non pas seulement 2 semaines, mais c'est une floraison très longue et donc 2 à 3 fois par semaine, il faut que des ouvriers et ouvrières passent dans les cultures pour faire vibrer les fleurs de tomates. Bref, ça coûte extrêmement cher en main d'œuvre. À partir des recherches de ce Roseller, il y a le docteur De Jong, qui est un vétérinaire, un grand amateur de bourdon, en fait, qui va breveter cette solution, ou racheter le brevet, je ne sais plus, créer BioBest, qui est une entreprise de production de bourdon. Après arrivera Coppert, qui est le deuxième grande industrie du producteur de bourdon. Et ils vont donc se mettre à produire des bourdons dans des usines de production. En 89, il y a 25% des producteurs hollandais de tomates qui utilisent du bourdon. En 91, il y a 95% des producteurs qui utilisent le bourdon. En 92, seulement 5 ans après, 100% des producteurs de tomates. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, si là j'aurais acheté une tomate produite je ne sais où, actuellement, mais même à toute période de l'année, elle a quasiment à 99% de chances d'avoir été pollinisée par un bourdon qui vient de 2 usines pour l'Europe, soit en Slovaquie, soit en Belgique. Au tout début, le bourdon coûte assez cher, mais en fait, c'est toujours beaucoup moins cher que la main-d'œuvre humaine. Et surtout, la tomate, c'est une culture à haute valeur ajoutée par rapport à la surface. Donc, ils s'en foutent de payer un peu cher. Et là, je voudrais vous montrer une deuxième vidéo promotionnelle par Coppert, donc qui nous montre un peu l'intérieur d'une usine de production de bourdon. Moi, j'ai rencontré les représentants de la filiale en France chez Coppert et BioBest. J'ai jamais pu aller dans les usines, évidemment.